des livres plein les oreilles. Tout change, tout bouge dans le domaine du livre audio, et d'ailleurs c'est ce qui rend l'aventure assez formidable. Et c'est aussi pour cela que Vues et Voix aujourd'hui devient une maison de production en avant-plan sur la scène internationale, francophone, disons-le, du livre qui s'écoute. Alors sans perdre de vue, bien évidemment, et nous allons en parler à cette émission, sa mission première qui est aussi de satisfaire une clientèle à besoins spéciaux et donc de rendre toujours la culture accessible à ces personnes-là. Et puis l'avenir, eh bien l'avenir est enfin au beau fixe, eh bien c'est la question qu'on va se poser. Et pour répondre à toutes ces questions-là, j'ai invité auprès de moi des gens que je connais bien parce qu'on travaille ensemble. Il s'agit de Marjorie Théodore et Marc Britant, que je vous présenterai un petit peu plus longuement un peu plus tard. On va aussi évoquer à cette émission un livre audio qui a été lancé le 21 septembre dernier. Vous savez, les personnes qui savent ce que le mot résilience veut dire, eh bien à ces personnes-là, à quelques-unes parmi elles, on a demandé d'écrire, de se laisser aller à écrire des textes, et on a demandé à des narratrices, à des narrateurs de rêves, à un narrateur et des narratrices qui savent également ce que veut dire le mot résilience, de lire ces textes-là. Ça donne un très très beau bouquin qui s'appelle « Je suis, vous êtes, nous sommes ». Et comme je vous le disais, il a été lancé, je vous en dirai également plus. Ne manquez pas ce segment également de l'émission. Alors, Vues et Voix se fait aussi la voix des jeunes en difficulté en apprentissage. Ce sera le sujet de la chronique de Marie-Ève Groux. Et puis, comme à chaque semaine, vous le savez, j'ai plein de nouveautés qui nous viennent de France et de Navarre à vous proposer en audio, avec bien sûr des extraits à la clé. C'est Clotilde Sey qui vous parle. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Des livres plein les oreilles. Marjorie Théodore, présidente, directrice générale de Vues et Voix. Salut Marjorie.
Bonjour Clotilde.
Elle n'en a que pour Mathieu. C'est Mathieu.
Mathieu me fait rire.
Oui, mais ça, il nous fait tous rire, mais en même temps, on l'adore. Parce que s'il nous faisait que juste rire, ça ne marcherait pas. Quoi. Oui, c'est ça. Alors, donc à ma droite, Marjorie Théodore. À ma gauche, Marc Britant, directeur du développement chez Vues et Voix et directeur de notre belle radio Canal M. Absolument. Alors, je vous ai demandé tous les deux de venir parce que par le passé, j'avais l'habitude de faire ça dans cette émission. Et on n'a pas toujours eu la mine très réjouie. On est passé à Marjorie, oui. et Marc, mais qui est arrivé un petit peu après ça, mais par des moments franchement douloureux. Et là, l'an dernier, vous nous aviez dit, ça y est, là, on est sur une belle pente, oui, montante. Et ça se confirme, notamment avec Marjorie. Cette annonce qui a été faite, alors on peut en parler maintenant, ça n'est plus sous embargo, comme on dit, c'est que oui, nous allons devenir, nous aussi, un des principaux commanditaires du prochain Salon du Livre de Montréal.
Oui.
Wow,
oui.
On est loin, là.
Non, on est vraiment loin. Écoute, c'est vrai qu'on a eu des moments difficiles, mais je pense que ces moments-là, c'est ça, hein, tu parlais de résilience tout, oui, à l'heure, hein, donc ça nous permet de nous reprendre en main et puis d'arriver à atteindre certains objectifs. Mm. Donc, alors, oui, c'est ça, nous sommes le partenaire, un des grands partenaires du Salon du Livre de Montréal. Plusieurs vont me demander, mais pourquoi cette décision? Ben, c'est aussi simple que ça. C'est que nous avons pris l'axe stratégique de produire les livres audio, parce qu'avant, c'était vraiment des livres produits pour des publics cibles, donc les personnes avec une déficience visuelle, etc. Donc, alors, on était prêts, là. Alors, oui. C'est un marché qu'on a nous-mêmes ouvert. C'est un marché timide dans le départ au niveau du Québec, puis au niveau de francophone aussi. Mm-hmm. Donc, nous avons travaillé pour ouvrir ce marché. Et là, c'était aussi maintenant de nous crédibiliser dans nos décisions et de dire que maintenant on est prêt vraiment à être reconnus comme des producteurs de livres audio francophones, mais aussi distributeurs aussi. Donc, alors, on va en parler un petit peu plus long, mais c'était une décision assez stratégique pour nous permettre vraiment de prendre l'envol qui est là, puis d'embrasser ce développement du livre audio.
Oui, et parce que je vais encore peut-être plus préciser les choses, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont en difficulté au niveau de la vue et qui parfois s'inquiètent un petit peu de ce virage. Et moi, je leur dis toujours, attendez, tous les livres que nous faisons se retrouvent tous, de toute façon, au Service québécois du livre adapté, du moins...
Oui.
Là, je vois Marc bouger un petit peu la tête. Du moins, nous travaillons pour ça. C'est ça. Nous travaillons de concert aussi avec les gens du SQLA. Et c'est toujours notre souhait.
Ben si nous produisons des livres audio commerciaux, c'est avant tout
pour
nous donner les moyens d'accomplir notre mission.
Ouais, parce que sinon, on ne pourrait tout simplement plus le faire.
Non, tout à fait. Il fallait prendre et on avait l'expertise. Donc, il fallait vraiment prendre ce virage.
Marc, au Salon du Livre, on va donc être commanditaire. Ça veut dire qu'on ne sera plus dans un petit coin, là, avec un...
C'est clair.
Alors,
cette année,
on va bénéficier
cette
de quoi
année, en collaboration avec la direction du Salon, il a été décidé de créer un espace, un très grand espace, qui va s'appeler l'espace innovant Vues et Voix, qui va donner la place à tout ce qui est innovation en termes de livres, les nouvelles technologies, on va parler des nouveaux formats, Hip-Hop 3 et autres, tout ce qui est format... Nouveau format accessible dont Marjorie pourra parler tout à l'heure. Et évidemment, une place importante au livre audio. En termes physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un grand espace, ça veut dire une très belle signalétique de Vues et Voix et du livre audio. Mais ça veut dire un mur, il va y avoir une sorte d'espace accessible pour le public, les jeunes et les moins jeunes. Avec un mur, avec des iPads intégrés, des écouteurs, où les gens vont pouvoir vivre l'expérience de qu'est-ce qu'écouter un livre audio. Mm-hmm. Il va y avoir un certain nombre de conférences qui vont tourner autour du sujet du livre audio. Il va y avoir des auteurs invités qui vont venir dédicacer le CD, le livre audio. Il va y avoir notre catalogue aujourd'hui représente, d'ici le salon, il va représenter plus de 200 titres.
Combien de temps?
Je dirais que ça fait 18 mois que
on a pédalé.
On a pédalé grâce aussi à la confiance et au soutien de bon nombre d'éditeurs d'ici qui ont fait le pari avec nous. Parce que le format audio, ça n'existait quasiment
non,
pas.
C'est ça.
Y a bien sûr Audible, une filiale d'Amazon, qui a commencé à faire la promotion de son service d'abonnement de lecture de livres audio. Ils ont commencé, ils fêtent leurs 2 ans ici au Canada. On a commencé à peu près en même temps qu'eux, et en fait, on a commencé avec eux aussi. C'est que Vues et Voix, décidant de produire des livres audio, a passé des accords avec Audible en termes de distribution, c'est-à-dire que tous les livres que nous produisons sont disponibles via l'application Audible, mais le sont aussi grâce à notre distributeur numérique de marque sur toutes les plateformes comme Apple, Kobo, Google, bientôt libraire.ca. Et surtout, ce qui est très important, c'est que nos livres sont accessibles sur toute la francophonie.
Ouais. Et d'ailleurs, Apple, j'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu plus tard, parce que ça va encore plus loin, hein, je pense, avec eux. Mais juste avant, parce qu'il y a encore des gens qui se demandent à quoi ça ressemble un livre audio, ben, un premier extrait qui va nous amener, entre autres, vers les prix des libraires, parce qu'on va être très, très proche.
Ouvrir son cœur.
Ouvrir son cœur. Un extrait.
Je tombe sur une de mes anciennes profs qui enseigne maintenant au cégep de Drummondville. Et je parle beaucoup trop longtemps de mon fils, au moins 10 minutes de trop, au cours desquelles une voix dans ma tête me supplie de la fermer. À la fin, je désespère de changer de sujet, puis j'y arrive avec un sentiment d'abdication, de nullité, presque de honte. Quand un sujet me passionne, je m'emporte et je ne vois pas venir le moment où mon interlocuteur perd l'intérêt pour ce que je dis. L'émotion m'aveugle. Que je parle de mon amour des frères Karamazov, de botanique, de féminisme, de chaussures et de cheveux, de cocktails ou du développement de l'enfant. C'est quand je parle trop de mon fils que je me sens le plus mal. Personne ne veut à ce point connaître les ramifications de mes inquiétudes à son sujet. Personne ne s'émerveille autant que moi de son intelligence et de son éloquence, de ses progrès qui non seulement me remplissent de fierté, mais me donnent l'impression d'apprendre profondément sur la langue et sur l'être humain. Dans un événement mondain, on survole les sujets. On parle de ce qui nous occupe, de ce qu'on a accompli. On se montre curieux envers les autres. Ce n'est pas le moment de manier des concepts, de spéculer, de poursuivre une idée sans savoir si elle nous conduira vers l'épiphanie ou dans un cul-de-sac assommant. Je passe beaucoup de temps à réfléchir et pas toujours à des questions bien concrètes. Mes idées s'agglutinent en masse, dont je sens qu'elles me seront un jour utiles, mais j'ignore en quoi. Des pans entiers de ma vie se déroulent uniquement dans ma tête, et c'est impossible de sortir ce contenu de ma tête pour le montrer. Je ne devrais même pas essayer. Ça ne compte pas. Si ça n'existe que dans ma tête, ce n'est pas fini, ce n'est pas montrable. Ça ne ressemble à rien.
Alors, la voix d'Ève Landry qui nous amène, Marjorie et Marc, à constater qu'on est quasiment en train d'ouvrir un nouveau secteur qui va faire travailler les Québécois, les comédiennes.
Les comédiennes, les comédiens québécois.
Non, mais ça, c'est quand même fantastique.
Ben c'est à double sens, parce qu'en même temps, ces comédiennes et ces comédiens connus nous soutiennent aussi dans notre action.
Voilà. Mmh.
C'est qu'ils participent volontiers à l'enregistrement de livres audio. Ils nous aident et ils ne sont pas d'une exigence comme ils pourraient l'être avec, dans le cinéma ou à la télévision. Ils sont extrêmement aidants et on a...
Ils se rendent bien compte que c'est... nous sommes des défricheurs, en
Absolument.
Quelque part.
En effet.
C'est ni plus ni moins.
Et c'est un nouveau métier pour eux aussi.
Mais
c'est
oui,
un nouveau métier,
c'est une nouvelle
opportunité de travailler. On a une liste maintenant très, très impressionnante de comédiens et comédiennes connus qui viennent. Martin Larocque est en train d'enregistrer.
Oui, Angèle Coutu,
Chantal Fontaine. La liste est longue.
Oui. Je me tourne vers toi, Marjorie, parce que récemment, tu es allée discourir à l'ONU. Attention,
ouais.
Je ne parle pas.
On parlait de vedettes, nous avons la nôtre.
on était tous très fiers ici dans l'équipe. Quel est le lien? Pourquoi?
Ah oui, alors on le sait, notre ONG est accréditée auprès des Nations Unies. Hein. Donc, mais c'est une accréditation qui est donnée pour 4 ans, pendant 4 ans. Après, il faut faire ses preuves. Alors les preuves, il faut remettre un rapport qui aussi démontre les actions que nous avons mises de l'avant.
Ouais.
Donc alors, et c'est pour ça que c'est renouvelé. Et là, vraiment, j'annonce en grande pompe que nous avons eu notre renouvellement pour un autre 4 ans. Ce qui permet à notre organisme et aux gens aussi d'aller aussi à l'ONU, comme je l'ai fait dernièrement, présenter des allocutions sur des enjeux particuliers qui nous concernent. Alors, la dernière fois, c'était sur la nouvelle loi sur l'accessibilité canadienne, donc qui prône un Canada accessible. Donc, alors, c'était d'aller interpeller les gens de l'ONU pour leur dire, écoutez, on a besoin de vous pour continuer à faire ce travail, mais
bien sûr,
à faire aussi que d'autres pays emboîtent le pas aussi.
Oui.
Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que ça donne aussi à Vues et Voix? C'est aussi de la crédibilité.
Bien sûr.
Le fait de rencontrer aussi au sein de l'ONU d'autres personnes, l'ambassadeur du Canada à l'ONU, donc des gens, les grandes fondations qui travaillent avec nous. Donc alors, c'est tout ça qui fait qu'on est là et puis on participe aussi à des traités comme le dernier traité de Marrakech. Donc on a déposé un mémoire. Alors c'est tout un travail derrière les murs, mais tellement important pour nous au Canada, mais aussi pour le monde, la grande francophonie.
C'est pour ça d'ailleurs que je souhaitais que tu viennes nous en parler, parce que je suis sûre que tout ça est un petit peu obscur finalement, mais c'est bien présent. Que diriez-vous tous les deux qu'on écoute un autre extrait? Je savais pas, bon, c'est vrai que j'ai couru après Marc un petit peu comme toute la semaine pour lui dire, ouais, quels sont les extraits qui éventuellement tu voudrais que je diffuse? J'ai pensé à Mylène Paquette.
Bonne idée.
Parce que, bon, on tombe dans un autre genre. Faut-il le rappeler, Mylène est cette jeune femme qui a traversé l'Atlantique à la rame, qui a écrit, qui a rédigé un bouquin et elle a accepté. Et ça, c'est avec les éditions de la presse. Et c'est important parce que eux, ils sont, je pense, ce sont les premiers.
C'est les premiers à nous avoir fait confiance
quand
on a produit avec eux la biographie de Marie-Lise Pilote.
Ah. Et voilà. Donc, un extrait, rien que pour souligner cette espèce de mariage aussi entre des gens qui font des choses merveilleuses dans la vie et les éditions de la presse.
Mmh.
Au son des cornes de brume des bateaux qui me souhaitent bon voyage, je me dégage du quai. Tellement je souris, j'en ai mal aux lèvres, aux joues. Lentement, non sans embarras, je donne mes premiers coups de rame. Je suis aux premières loges de mon rêve. Enfin, je touche à l'instant qui m'envahit de sensations. J'ai la tête pleine de papillons. Je sens que la mer est mienne et que l'avenir m'appartient droit devant.
Rame, rame, rameur, ramez. On avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi et rame.
Ah, chère Mylène, dont on aime tout, la voix, l'aventure.
Bel exemple de résilience.
Oui, hein, absolument. Nous aussi, on fait preuve quand même de beaucoup de résilience, je trouve, depuis quelques années. Dieu sait si on...
On a ramé beaucoup.
Oui. Puis, alors là, il y en a peut-être qui vont penser...
Marjorie a traversé l'Atlantique plus d'une fois.
Il y en a peut-être qui se disent qu'on se congratule, qu'on se... Mais c'est pas ça. C'est vrai qu'on a failli mettre la clé sous la porte bazar et que c'était quand même une institution incroyable qui aurait fermé ses portes, qui est d'une utilité invraisemblable et fondamentale. Et tout à l'heure, je voudrais un petit peu rebondir, Marc, sur... tu as parlé très gentiment des comédiens en disant que c'est vrai qu'ils sont généreux envers nous. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'ils sont généreux? Pourquoi là, il n'y a pas assez pour les payer? Non, parfois, il arrive qu'effectivement, on soit obligé d'avoir des petits budgets pour essayer de faire des gros projets.
Le marché du livre audio est balbutiant. On parle pas de vendre des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, les comédiens sont très conscients qu'ils ne peuvent pas toucher des cachets comme ils pourraient le toucher aux États-Unis ou en France. Aux États-Unis, c'est un livre sur quatre. C'est un milliard de dollars de chiffre d'affaires. On en est loin ici. On commence.
Donc ils jouent le jeu. Et moi, notamment, j'ai pu le vérifier en ce moment. On est en train de produire, et je le réalise, ce livre sur les belles-sœurs.
Oui, l'œuvre qui a tout changé. Je vais en parler à ta place parce que tu ne vas pas oser parler de ton rôle.
Moi, j'en dirai pas plus. Mais...
C'est un très beau projet qu'on développe aussi avec les Lions de la Presse. Donc, c'est un livre de Mario Girard qui s'appelle « Les belles-sœurs, le livre qui a tout changé ».
C'est ça.
Et c'est un ouvrage remarquable, c'est un très 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 beau livre qui fait un peu le tour de l'histoire et de l'impact qu'a pu avoir les belles-sœurs de Michel Tremblay sur notre société québécoise et même sur la société en général et sur le rôle des femmes en général. Cette pièce a quand même voyagé beaucoup à travers le monde. Et on a donc décidé avec la presse et le soutien d'Apple, parce que c'était un projet relativement coûteux, puisque il y a à peu près, je crois, 17 comédiennes et comédiens qui y participent, pas loin.
Un petit peu plus.
On est
rendu à 25, 26 à peu près.
Je dois vous faire une confidence, Clotilde connaît les chiffres mieux que moi, parce qu'en fait, Clotilde... au-delà de tenir la barre de cette très belle émission, assure aussi la direction artistique de ce projet. Ouais. C'est elle qui a contacté l'ensemble des comédiens, qui les a mis ensemble, qui a réparti le rôle de chacun dans ce livre, qui a réussi l'exploit de faire venir aussi bien Michel Tremblay que Denis Filiatro.
Robert Lepage à une semaine de l'ouverture du Diamant.
Tout le monde nous disait impossible. Fait, tout ce petit monde-là est là. Et ce livre devient tellement important pour la culture d'ici. Et c'est un ouvrage en termes de livre audio majeur qu'il sera lancé au Salon du Livre en grande pompe, avec l'appui de la presse, bien entendu, mais aussi la présence de plusieurs de ses comédiens. Soulignons aussi que que ce soit l'éditeur, le producteur ou l'artiste lui-même, à savoir Daniel Bélanger, nous a permis d'utiliser des morceaux de son album et nous permettre une illustration musicale. Au total, ça va être le plus beau livre audio jamais produit dans la francophonie.
J'espère.
Je vous l'assure. Et grâce à toi, le saluer.
Mais c'est vrai que c'est un cadeau qu'on se fait tous. Et je dois dire qu'ici au Québec, Marc et moi, ça s'entend, on est tous les deux d'origine française, mais je l'ai dit à tous les comédiens, ça aurait été quasiment infaisable de faire un projet comme ça en Europe, en France.
C'est clair.
Ah, oui.
Ici, il y a une générosité. Les gens ne se prennent pas pour d'autres. C'est quand j'ai vu débarquer Robert Lepage, qui travaille sur le diamant depuis des années. Il était à quelques jours d'ouvrir. Mmh. Allez, hop, il a fait le chemin. Je pense à Michel Rossignol, qui est quasiment aveugle. Ouais. Et qui s'est déplacé, Denis Filatro et tous ces gens-là, il y a une générosité qui permet aussi...
Oui, il y a une très belle communauté culturelle.
Ah, la créativité à ce moment-là, c'est quand même...
Il y a une très grande sensibilité de cette communauté sur notre mission aussi.
Oui, aussi.
Ils sont tous très fiers de pouvoir rendre accessibles des œuvres comme celle-là aux personnes qui n'ont pas accès à la lecture papier.
Oui. Vous deux, l'heure tourne. Marjorie, je te vois. Tu avais peut-être quelque chose
à
rajouter.
Non,
ça va. Toi, Marc. Parce que donc là, on a fait le tour. On sait. J'espère maintenant que les auditeurs ont bien conscience que nous avons avec nous des gens comme Apple Books qui nous soutiennent, qui seront là d'ailleurs pour le Salon du Livre, qui soutiennent des projets comme Les Belles Sœurs, les éditions de la presse et tellement d'autres.
Apple Books soutient même des livres plein les oreilles.
Mais oui, voilà.
Parce que des livres plein les oreilles.
Ouais, le podcast.
Est devenu aussi un podcast qui est propulsé par Apple Podcast et qui donc traverse l'Atlantique, traverse toute la francophonie. Et il faut reconnaître aussi, cher Clotilde, que c'est la seule émission qui parle de livres audio.
Oui, ça je leur dis tellement qu'ils doivent être écœurés de l'entendre.
Mais je le dis de nouveau.
Oui. Alors, ben, merci à vous deux, Marjorie, Marc, parce que c'est vous quand même qui êtes à la tête de tout ça. puis nous, derrière, il y a une belle équipe qui suit, mais ça me semblait important à un moment donné de faire le point peut-être sur tout ça. Et on va se quitter, tiens, sur un troisième extrait. Qu'est-ce que j'ai choisi ? Oh, ben... Forestier selon Louise, qu'avoir Louise Forestier pendant plusieurs semaines dans nos couloirs, Mathieu Tessier qui est aujourd'hui à la régie pour faire cette émission a beaucoup travaillé avec Louise et ça a été un grand bonheur. Merci à vous deux. On se quitte avec Louise Forestier et on l'écoutera chanter juste après.
J'ai 4 ans sur la 4e rue à Shawinigan. Je tourne le coin de la ruelle pour comprendre trop tard que la pente est très à pic. Ma tricyclette, je voulais une bicyclette. J'ai eu un tricycle, alors je l'ai nommé ma tricyclette. Donc, ma tricyclette s'emballe et moi je m'énerve. Ma jupe m'aveugle, retroussée par le vent, ça crie autour de moi. Elle va se faire écraser! D'une main, je repousse ma jupe. Je perds le contrôle. J'en perds les pédales. Je vois les autos sur le boulevard, en bas. Mes lunettes s'envolent, arrachées par l'accélération, et je comprends que je suis en danger. La peur s'imprime à tout jamais dans mon système nerveux. Mes synapses se dérèglent. Je crie « Nénette! Nénette! » C'est le nom de ma poupée. Je l'aime tellement. Soudain, deux mains me soulèvent de terre et je vois ma tricyclette se faire écraser sous mes yeux. Je pleure ou je hurle ou je ne fais rien, je ne sais plus. Mes parents sont au travail et j'ai échappé à la surveillance de ma grand-mère Alice.
Cœur aux aguets, je me perds de vue dans le brouillard. Je me sens perdu au fond du bar. Mes désirs blafards allument leur phare à tout hasard. Dans la fumée bleutée des cendriers, vous savez, moi. S'offrir la chaleur et l'espoir quand vient le soir. Prince Arthur, prince Jean, prince du vent, ils s'en viennent, ils s'en vont. Parfois c'est bon, c'est ma vie en suspens, l'amour en passant.
mal qu'on verse, qu'on renverse, mots inutiles qu'on déverse. Tu peux me faire croire ce que tu veux. J'ai besoin de savoir qu'on peut être deux phrases inachevées, noyées dans des verres de bière déserts. Je vais me refaire une beauté en poudre blanche. Ma vie est offrir la chaleur et l'espoir quand vient le soir. Prince Arthur, prince Jean, prince du vent, ils s'en viennent, ils s'en vont, parfois c'est bon, c'est ma vie en suspens, l'amour en passant. Du ventre des haut-parleurs, la musique enterre la peur de se retrouver seul, tout seul, trop seul. La nuit se fait pâle, c'est le last call. Les désirs perdus se cherchent, dans la rue se prostituent. On fera semblant de s'aimer, les yeux fermés. Viens dans mon lit. Chaleur et l'espoir quand vient le soir. Prince Arthur, prince Jean, prince du vent, ils s'en viennent, ils s'en vont. Parfois c'est bon, c'est ma vie en suspens, l'amour en passant.
Prince Arthur, chanté par Louise Forestier, qui marque la fin de cette première partie de l'émission Des livres plein les oreilles, qui va se poursuivre d'ici deux minutes. D'ici, oui, c'est ça, deux minutes, avec d'autres sujets, d'autres livres à vous faire entendre et, ben, je l'espère, d'autres livres que vous aurez le goût de lire à un moment donné ou d'écouter par les oreilles. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie de cette émission, je suis, nous sommes, vous êtes, un livre écrit par des auteurs pas comme les autres et par des lecteurs qui les comprennent bien. Et puis, je vais également vous proposer quelques bons bouquins à vous mettre entre toutes les oreilles. Alors d'abord, je suis, nous sommes, vous êtes. J'ai encore le doute, hein. Non, eh bien j'ai raison de douter. Je suis, vous êtes. Nous sommes. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la deuxième collaboration entre Vues et Voix et l'Association des libraires du Québec. C'est déjà cette association qui avait donné lieu au livre Les Voix de Nelly, le livre audio, vous vous en souvenez peut-être, c'était l'an dernier. Alors celui-ci, Je suis, vous êtes, nous sommes, c'est le résultat d'un appel de texte auprès de membres de l'organisme Execo et du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, un organisme avec qui nous allons faire un peu plus connaissance dans une entrevue d'ici quelques minutes. Mais avant, permettez que je vous présente ce collectif-là, qui est un collectif différent. Ce sont toutes des personnes en situation de handicap qui ont pris la plume et qui ont décrit des expériences, des sensations marquantes, injustes parfois, ou encore inspirantes, ou tout simplement écœurante pour elle et pour leur entourage. Ce sont des textes qui ont été commentés et annotés par un poète que nous aimons tous beaucoup, c'est Jean-Paul Daou, et qui ont été retravaillés par des quelques auteurs et autrices avant d'être mis entre les mains et surtout dans la bouche de comédiennes telles que France Castel et Marie Tifot, et également le comédien Mario Saint-Amand, et c'est eux trois qui ont enregistré ces textes-là. Ce sont des performances qui ont été présentées au public lors d'un lancement qui avait lieu le 21 septembre dernier à la Maison de la Culture de Verdun. Et aujourd'hui, donc maintenant qu'il est lancé, ce bouquin « Je suis, vous êtes, nous sommes », eh bien, nous avons la possibilité de pouvoir l'écouter à notre tour. Vous pouvez aller le chercher sur notre site internet livreaudio.vusezvoix.com. Avant peut-être de m'entretenir avec une personne du SIVA, je vous propose d'écouter un extrait du texte de Daniel Lepage, « Combattre le syndrome de la roue ». Et je vous laisse reconnaître la voix qui lit ceci.
Qui suis-je? Un type normal. Longtemps debout. Maintenant, assis plus souvent qu'autrement. À l'aube de la cinquantaine, l'homme habile et agile qui marche, roule, frappe la balle, danse jusqu'au petit matin, a vu sa vie basculer. Sensation de raideur dans les jambes, perte d'équilibre, inquiétude, fin du monde. Ce qu'on imagine arriver aux autres m'a frappé de plein fouet. Le diagnostic? Maladie neurologique rare qui fait en sorte que je n'ai pas d'équilibre. Après la canne, il y a eu deux cannes, puis une marchette. La marchette, ça va, mais on s'entend qu'en termes de mobilité, il y a plus rapide. Du coup, mes déplacements à l'extérieur se sont faits majoritairement en fauteuil roulant. Mon fauteuil, je l'apprécie et je le trouve beau. En plus, sur une surface sans aspérité, rouler n'est que source de plaisir. Le grand tour Vélo-Québec, c'est derrière moi, mais je danse encore et toujours. Fondu au noir, musique dramatique, bruit grinçant. Une épaisse brume recouvre le sol. Au loin, un homme émerge dans la lumière. L'homme est malheureux. Il roule péniblement. Très tiré, sa vie est finie.
Alors pour en savoir un petit peu plus sur ce projet et notamment sur la façon peut-être dont ces auteurs ont été contactés et par qui surtout, je rejoins Clélie Barret du SIVA. Bonjour Clélie.
Bonjour.
Clélie, voudriez-vous nous rappeler rapidement ce qu'est le Centre d'intégration à la vie active?
Oui, bien sûr. Donc le SIVA est un organisme à but non lucratif qui a pour principal mandat de favoriser, d'étudier, de promouvoir, de développer des activités, des programmes afin d'aider des personnes vivant avec une déficience motrice à s'intégrer et à participer activement à la vie de leur communauté.
Alors, on parle d'activités sportives uniquement ou également culturelles, donc?
Exactement, voilà. On parle d'activités sportives et d'activités culturelles.
Alors, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Non,
Clélie, quel a été votre rôle, à vous personnellement, mais également le rôle du SIVA dans l'élaboration, dans la réalisation, la production de ce livre?
Mais notre rôle principal a été en fait de participer à l'appel de texte, de contacter nos membres, de voir qui ça pourrait un petit peu intéresser, leur expliquer un petit peu le projet pour qu'ils puissent ensuite proposer des textes.
Mmh.
Voilà, des textes qui ensuite allaient être lus et commentés par M. Jean-Paul Daou.
Oui.
Et les textes ensuite étaient sélectionnés pour être enregistrés sur le livre audio.
Ça a dû être terrible de devoir dire non peut-être à certains.
Écoutez, oui.
Moi, je pense toujours à ça.
C'est jamais évident, mais en fait, c'est des personnes avec une très grande capacité d'adaptation.
Oui.
Hein.
Oui.
Donc, il n'y a pas eu de grosses déceptions. Au contraire, ça a été même, je pense, un début de motivation pour s'améliorer, faire mieux et persévérer.
Ah, ça, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y en a à qui ça a donné une sorte de vocation d'écriture, peut-être?
Oui, absolument.
C'est vrai?
Oui. Oui, oui, oui. Puis ben, j'ai notamment une participante qui participe régulièrement au cours d'art et qui m'écrit un texte à chaque journée.
Et qui s'appelle comment?
C'est Suzy Lheureux qui a participé au projet.
D'accord, Suzy Lheureux. Et vous devez bien connaître aussi Dominique Riel avec qui je vais m'entretenir d'ici quelques minutes.
Eh bien, écoutez, juste deux noms, pour être bien honnête.
C'est vrai?
Je ne connais malheureusement pas tous les participants.
Ah ben non, c'est sûr, c'est sûr.
Voilà.
Alors, le SIVA, en gros, pour juste avant qu'on se quitte, ça représente combien de personnes qui sont chez vous et qui sont actifs malgré leur état?
Ça représente à peu près 250 personnes.
Ah oui?
Oui. Tout confondu.
Et j'imagine que vous, comme tous les autres organismes, et là j'ouvre une grande parenthèse qui n'a rien à voir avec la littérature, mais vous êtes toujours à la recherche de gens bénévoles, peut-être pour aider,
absolument,
pour accompagner. Bon.
Tout à fait.
Alors CIVA, c'est, je rappelle que c'est le Centre d'intégration à la vie active, CIVA, et que je m'entretenais avec Clélie Barret, coordonnatrice du développement culture, au sujet de ce livre dont nous allons continuer de parler. Je pense que je ne l'ai jamais dans le bon ordre. Je suis... Vous êtes, nous sommes.
Absolument, c'est ça.
Merci beaucoup, Clélie.
Oui.
Et puis, ben, écoutez, bonne continuation à vous et à votre organisme et aux 250 membres qui en profitent.
Merci beaucoup à vous.
Et là, je vais tout de suite me tourner vers une autre personne qui va intervenir. Et c'est une des auteurs dont les textes ont été choisis. Dominique Riel. Dominique, vous êtes là?
Oui. Là.
Merci beaucoup, Dominique, d'avoir accepté cette invitation de répondre à nos questions. Lorsqu'on vous a contacté, Dominique, pour vous dire, est-ce que ça vous tenterait de prendre la plume et de nous parler de vous, ça a dû vous surprendre un peu, non?
Un peu, mais en même temps, c'était vraiment touchant, c'est une marque de confiance.
Mmh. Vous, Dominique, vous vivez avec un problème, je pense que c'est suite à un accident ou...
Non, suite à une opération.
Suite à une opération, pardon?
Au cerveau.
Au cerveau.
On m'a enlevé un hémisphère complet du cerveau quand j'avais 17 ans. De l'âge de 12 à 16 ans, j'avais des problèmes de comportement. C'était causé par un virus qui s'était logé au cerveau, mais on ne le savait pas.
Oh.
Et puis, j'ai commencé à faire 10, 20, 30 crises d'épilepsie. Puis, à un certain moment donné, j'ai dit à mes parents, si vous ne faites pas quelque chose, moi, je vais mourir. Alors, ma mère a fait des démarches auprès de l'Institut de neurologie de Montréal. Et à toutes les semaines, elle appelait en neurochirurgie pour que j'aie ma place. Ça a pris un an. Par le temps, je me suis fait opérer. Mon cerveau droit était plus bon. Ils ont dû tout le retirer. J'étais rendue à 100 crises d'épilepsie par jour. Donc, ça m'a sauvé la vie.
Oh!
Mais je me suis fait opérer à 17 ans et à 18 ans, 10 mois plus tard, je me retrouvais en appartement toute seule. Et moi, ce que j'ai écrit, c'est cette période exactement. La période où je suis sortie de la psychiatrie, je me suis ramassée en réadaptation, puis là, je me ramasse enfin chez moi toute seule. C'est toutes les prises de conscience, toute la réalité, tout ce qui entoure l'arrivée d'un enfant en appartement normal, mais rajouter l'handicap par-dessus. Donc moi c'est là-dessus que j'écris, mais j'ai quand même une écriture un peu légère dans le sens que je c'est pas dramatique ce que j'écris.
C'est non, c'est ça.
Clibier.
Mais est-ce que vous écriviez déjà avant quand vous faites cette proposition, Dominique?
Oui, en fait, j'étais en train d'écrire mon autobiographie. Et puis quand j'étais approchée pour ça, j'ai comme extrait un petit bout de ce que j'avais commencé à écrire, je l'ai modifié puis je l'ai proposé et tout le monde était emballé.
À commencer par France Castel, hein, qui vous a lu.
Ah oui, j'étais pas au courant qu'elle était emballée de m'avoir lu.
Ben, il me semble bien, moi. Et je vous propose, ne raccrochez surtout pas tout de suite, Dominique, on va en écouter un extrait.
D'accord.
Je me souviens avec émotion et un petit rire en coin de cette journée de déménagement. le 7 avril 1991. J'avais 18 ans. J'ai dormi dans mon sac de couchage à terre avec, à mes côtés, mon téléphone Harmonie rouge. Pas évident, lorsque tu es paralysé, de dormir à terre. Mais là, ce n'était pas grave. J'étais chez moi. Soudain, j'entends un bruit d'avion. Oui, un gros avion, tu sais. Un qui est si bas que tu peux compter les boulons. Je me suis dit, ça y est, ma vie s'arrête ici. C'est bête de mourir la journée où enfin tu accèdes à la liberté. Paniqué, je suis sorti sur le balcon, persuadé que ma fin était proche, pour réaliser que j'étais la seule à paniquer. Pas besoin de vous dire qu'on s'est moqué de moi longtemps. Malgré que je croyais que l'avion était pour me tomber dessus, il fallait pas que j'oublie que les tours de contrôle existaient. Vivement l'appartement supervisé et ses drôles d'agents de bord, mon éducatrice et mes parents.
Voilà, Dominique. C'est la première fois que vous l'entendez?
Oui. Ça me fait tout drôle. Je suis vraiment emballée. Je trouve ça vraiment le fun.
Ça doit être touchant, hein?
C'est très touchant.
En tout cas, nous, vous savez, quand vous parlez de votre écriture, Dominique, et de cet humour que vous avez, et de ce sourire que vous avez en écrivant, on le sent tellement bien. Et puis alors, évidemment, une voix, une énergie comme France Castel pour porter ces mots-là.
Ah, c'est merveilleux. Je l'avais pas entendu, je trouve ça merveilleux.
Ah, oh, mais tant mieux.
De mettre de la vie comme moi, j'essaie d'en mettre dans mon écriture, c'est merveilleux, je suis vraiment touchée.
Ah, ben écoutez, Dominique, on l'est tous d'ailleurs en vous entendant en ce moment, et ça me fait très plaisir de pouvoir partager ça avec vous et les auditeurs. Dominique, je vais vous saluer, je voudrais vous remercier, je voudrais vous dire que j'ai hâte. Très hâte de lire votre biographie, votre autobiographie. Et d'ailleurs, il faudrait que ça donne lieu à un livre audio à tout prix, ça, qui pourrait être produit chez Vues et Voix.
Ce serait merveilleux, mais je vais commencer par finir de l'écrire et essayer d'aller chercher de l'aide un peu.
Bon,
pour,
oui.
Pour mettre le tout en place, parce que c'est pas évident quand tu es chez toi d'écrire puis d'envisager la production et tout ce qui s'ensuit.
Oui, oui.
Moi, vous savez, moi, ce que j'écris, c'est ma vie. J'étais pas consciente que ça pouvait intéresser les gens à ce point-là.
Dominique.
Mais j'en ai pris conscience.
Mais Dominique, si vous saviez à quel point. Vous savez, la vie des gens riches et célèbres, à un moment donné, ça va faire, quoi. Vous savez, il y en a tellement d'autres qui ont des choses à dire, et on sent bien, d'après ne serait-ce que cet extrait lu par France Castel, que vous faites partie de ces gens-là. Et écoutez, si on peut vous aider à mener à bien ce texte-là, même personnellement, je m'y engage. Si je peux faire quelque chose, ça va me faire plaisir, Dominique.
Ben, merci beaucoup.
Je vous embrasse fort.
Moi aussi.
Et puis on va écouter un autre extrait. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez pour l'écouter. C'est l'extrait d'un texte d'une femme qui s'appelle Myriam Tremblay. Elle, pour elle, l'art fait partie intégrante d'elle. C'est une femme qui était déjà artiste en céramique avant qu'elle subisse un trauma crânien. Elle a assisté à beaucoup de cours d'art du CIVA. Elle fait partie du collectif CIVAR depuis plusieurs années. Et pour elle aussi, la création donne un sens à sa vie, et elle laisse voguer son imagination, et on a laissé la voix de Marie Tifot voguer sur les mots de Myriam Tremblay.
Ma vie d'handicapée commence pendant les plus belles années de ma vie de femme. Les plus belles années pour moi, évidemment. Je me sentais bien dans mon corps et ma tête, du moins, il me semble. J'étais peut-être un peu originale, mais c'était un état relativement normal et correct pour moi. Donc, dans la trentaine, j'ai eu un accident d'auto dû à une tempête de neige dans le parc des Laurentides, le 1er janvier 1990. Diagnostiquée traumatisée crânienne, j'ai été dans le coma 3 mois. À mon réveil, c'était pour moi comme si je m'étais endormie la veille. Je n'ai fait aucun voyage astral ou fantastique, comme ce que certaines personnes qui ont été dans le coma racontent parfois. Pour moi, ça me paraît d'ailleurs surprenant ou hallucinant. J'imagine que ça dépend peut-être de la profondeur du coma. Le mien était profond et plate. Je me suis réveillée endolorie sans savoir pourquoi, et surtout sans relier cela à une catastrophe. Je ne me souviens de rien, ni de l'événement, ni de mon passé proche. Ce sont mes souvenirs lointains qui sont présents dans ma mémoire. Pour moi, mon père est vivant, alors qu'il est en réalité mort depuis plus de 20 ans. Je passe alors plusieurs années à remettre de l'ordre dans ma vie. Mon entourage se charge de me rappeler la triste réalité. Il me précise l'événement. J'ai défoncé le pare-brise de l'auto et j'ai été parachuté dans un banc de neige. Mon neveu de 3 ans, Jérémy, a lui aussi été éjecté avec son siège. Il est mort. Pour moi, tout cela est arrivé à quelqu'un d'autre que moi. Je dois tout réapprendre.
Voilà, ce texte est de Myriam Tremblay. Il y avait celui aussi de Dominique Riel qui était peut-être resté avec nous pour écouter ces mots de Marie Tifot.
Oui, je suis là.
Bon, encore une fois, Dominique, bravo. Je voudrais aussi saluer tous les autres auteurs de ce projet. Je suis, vous êtes, nous sommes. Patrick Desjardins, Nicole Jolander, Denise Larivière, Daniel Lepage, Suzy Lheureux, Jimmy Liberge, Maude Massicotte, Maria Palazzo, Diane Ross, Myriam Tremblay et Dominique Riel, avec qui je me suis entretenue. Ce livre, Je suis, vous êtes, nous sommes, est sorti en audio le 21 septembre dernier. Il y a eu une magnifique manifestation pour ça, avec des lectures, tout ça, à la Maison de la Culture de Verdun. Et c'était lu, en tout cas, c'est lu en audio par France Castel, Jean-Paul Daou, Mario Saint-Amand et Marie Tifot, pour vous procurer l'ensemble de ces textes écrits par Dominique Riel et tous les autres. Allez-y, c'est sur notre catalogue, c'est sur la collection. livreaudio.vusezvoix.com. Merci encore et au revoir, Dominique, et bravo à tout le monde.
Merci d'avoir accordé du temps. Je vous souhaite une belle journée.
À vous aussi, Dominique.
Merci.
Je suis venue te parler un peu de moi, sans le mystère que je traîne. De toute façon, ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent. Je suis venue te parler un peu de moi, de ces démons qui se promène et de ce feu qui brûle les doigts, qui laisse des traces sur ceux que j'aime. Besoin de ton équilibre encore, de me tenir debout sans effort. De ceux que j'aime, je vois passer les journées comme des mois dans le désert. J'espère quand même que quelqu'un soit là à côté de moi et me demande pourquoi ma peine. Thank you. sans effort.
Superbe chanson de Salomé Leclerc, Ton équilibre, choisi pour vous, pour nous, par l'ami Mathieu Tessier, pour rester dans cette ambiance. Quelques nouveautés, tiens, chez Audiolib, ce livre que j'ai très, très envie de lire, Né d'aucune femme. Déjà, j'adore ce titre, Né d'aucune femme. Sur la page de couverture, on peut voir une femme qui allait, qui porte une espèce de couverture assez négligée, jambes écartées. Enfin bon, c'est une très belle photo en noir et blanc. C'est un livre de Franck Bouys, Bouys, qui est maintenant disponible en audio. Je vous le disais, c'est une nouveauté chez Audiolib. Le livre a été lu par Simon Dupré et Cachou Kirsch. Le thème, dans le secret du confessionnal, on confie un jour au Père Gabriel une mission. Récupérer à l'asile voisin, sous la jupe d'une femme dont il doit bénir le corps, de mystérieux cahiers. C'est ainsi que sortent de l'ombre les carnets de la jeune Rose, ceux dans lesquels elle a conté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. C'est sorti le 11 septembre 2019 en audio. L'éditeur d'origine, c'est La Manufacture de Livres. La durée du livre audio, c'est 9h09. Et je précise que ce livre a reçu le Grand Prix d'électrice Elle Policier 2019, le Prix Babelio en littérature française 2019 et le Prix des libraires en 2019 en France, Né d'aucune femme, extrait.
Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme avec mon père, ma mère et mes trois sœurs. Les Landes, que ça s'appelait. D'ailleurs, ça doit bien toujours s'appeler pareil, étant donné que les endroits changent pas facilement de nom, même quand les gens s'en vont. On était quatre filles, nées à un an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles valent pas grand-chose pour des paysans. En tout cas, pas ce que des parents attendent pour faire marcher une ferme, vu qu'il faut des bras et entre les jambes de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre entre nos jambes. Si j'ai pas entendu mille fois mon père dire que les filles, c'est la ruine d'une maison, je l'ai pas entendu une seule. Il se cachait même pas de nous quatre pour le dire bien fort, comme si on était seuls responsables du malheur qui lui pesait. Nous, ses propres filles, fabriquées avec son propre sang et celui de ma mère, qui écoutait en tordant le nez, mais qui disait jamais rien. Qui a jamais tenté de le contredire, ou alors si c'est arrivé un jour, j'étais pas là. Au moins on s'entendait bien, mes sœurs et moi. On se serrait les coudes sans rechigner au travail. Malgré tout ce qu'on abattait, mon père nous faisait comprendre que ça suffisait pas, que ça suffirait jamais. Du mieux et du plus qu'on faisait, ça changeait rien. Alors, on se débrouillait à trouver des moments pour s'amuser entre nous, en cachette. On riait souvent. On n'était rien que des gamines, sans le souci du demain.
Ça s'appelle « Né d'aucune femme » et c'est assez dense hein, comme bouquin. Tiens, quelque chose de policier un peu plus léger. Imaginez-vous qu'un jour, on vous apprend que pas loin de chez vous, il y a des lingots d'or qui sommeillent depuis des années sous l'ancienne villa de Pablo Escobar. Ça se passe à Miami Beach. Ça s'appelle « Carimora » de Thomas Harris et c'est lu par Antoine Thomé.
Le bateau de Hans-Peter Schneider passe tout doucement devant la grande maison donnant sur Biscayne Bay. L'eau clapote le long de la coque noire. Avec ses jumelles, Hans-Peter observe Carimora, 25 ans, qui fait ses étirements sur la terrasse en pantalon de pyjama et débardeur dans la lumière du petit matin. « eh bien !» souffle-t-il entre ses dents. Ses canines sont assez longues, avec un plaquage d'argent qui luit quand il sourit. Hans-Peter est grand, blafard et dépourvu du moindre poil ou cheveux. Comme il n'a pas de cils non plus, ses paupières touchent le verre des objectifs, y laissant des traces de condensation. Il essuie les jumelles avec un mouchoir en lin. Félix, l'agent immobilier, est debout à côté de lui sur le pont.
« C'est elle, » annonce-t-il. « La gardienne. Elle connaît la maison mieux que n'importe qui. Elle peut aider. Apprenez les lieux avec elle. Ensuite, je virerai son petit cul de là avant qu'elle ait pu voir quoi que ce soit qui ne la regarde pas. Elle peut vous faire gagner du temps. »
« Le temps, le temps. Jusqu'à quand il dure, ce permis ?»
Le type qui loue la baraque tourne des spots publicitaires. Il a l'autorisation pour 15 jours encore.
« J'ai fait une clé de cette maison, Félix. » Hans-Peter a un accent germanique prononcé. « J'ai la feu aujourd'hui. »
Sur les ondes de Canal M, vous écoutez « Des livres plein les oreilles ». Des livres plein les oreilles, troisième partie. Vous savez, il y a des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et pourquoi pas des livres audio? C'est de cela dont il sera question d'ici quelques minutes avec Marie-Ève Groux qui va venir nous présenter sa chronique sur le sujet. Et puis, bien évidemment, pour finir cette 150e émission, il y aura plein d'autres suggestions de livres audio à vous mettre entre les oreilles.
J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment on fait pour entrer dans vos vies pour de vrai. J'aimerais ça être votre ami, mais j'ai trop peur de me fendre. Je suis l'enfant scaphandre. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment ça marche pour être admis à bord de votre arche. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment me vendre. Je suis l'enfant scaphandre. Vous êtes libre et grand dans la lumière. Vous trouverez mes trésors très ordinaires. Entendrez-vous ma voix qui se brise dans ma visière? Votre ami pour gravir les mêmes falaises, prêt à vivre des silences sans malaise. J'aimerais ça être votre ami pour graver des choses vraies, mais j'écris sous la pluie à la craie. Je sais pas être votre ami, et je n'ai plus qu'à me rendre au pays des enfants scaphandres. Faut passer entre le vent et la poussière, ramer jusqu'à ce que le ciel touche à la mer. Paraît qu'on peut s'ouvrir sans manquer d'air.
Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Clotilde.
Alors elle s'appelle Marie-Ève Groux, elle s'est jointe à notre équipe ici à Vuzévois. Il y a maintenant quoi, presque 2 ans hein, que tu es là?
Non, presque un peu plus d'un an.
Un peu plus d'un an. Et alors au début, tu étais venue comme ça, faire un petit stage et puis finalement...
Elle n'est jamais partie.
C'est une fille dont on a tellement besoin dans nos coms, pour toutes ses idées. Et tu as été notre Lulu.
C'est moi Lulu.
La petite avec
hasard,
les lunettes.
Exactement. On partage les mêmes cheveux, le même style vestimentaire à peu près. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai été engagée ici pour faire une campagne de sous-financement qui s'appelait, pour le programme qui s'appelle Lulu, en fait.
Oui.
Et Lulu, c'est un programme hyper intéressant parce que c'est pour aider les jeunes qui sont en situation de troubles d'apprentissage.
OK.
Donc, c'est de ça que je suis venue te parler aujourd'hui parce que c'est une ressource qui est peu connue à la fois des parents, à la fois des enseignantes. Je féminise les enseignantes parce que, point, fin de la phrase, mais c'est une ressource qui est donc peu connue et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une ressource qui est facile d'accès, en fait, la minute qu'on est au courant qu'elle existe. Donc, c'est ça. Comment ça fonctionne, Lulu? C'est pour les jeunes en situation de troubles d'apprentissage, donc tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysphasie, même troubles de comportement. Et en fait, la minute que la spécialiste scolaire le met dans le plan d'intervention, je crois que la mention exacte, c'est aide technologique à la lecture. Ça inclut le livre audio. La minute que ça, c'est inscrit dans le plan d'intervention, le jeune ou la jeune a droit gratuitement à tout ce qui est livre audio. Donc, à la fois via le SQLA, peut faire une demande pour le Service québécois du livre adapté, mais peut aussi nous appeler, donc pour faire partie du programme Lulu. Et le programme Lulu, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement à la lecture, donc, puis doublé d'un calendrier audio. Donc, nous, on s'assoit avec la production, on s'assoit avec les parents, avec la spécialiste s'il y a besoin. On voit c'est quoi les besoins de lecture pendant l'année, donc le calendrier scolaire de lecture. Et nous, après ça, on est capable de faire un second calendrier, qui est un calendrier de prod, en fait. Donc, s'assurer avec les parents, avec la prof, de voir quand est-ce que le jeune a besoin de ce livre-là, c'est quoi les deadlines, vers où on s'enligne pour la production audio. Et nous, à partir de ce moment-là, on peut donc produire les œuvres qui sont étudiées à l'école en version audio.
En version audio.
Exactement.
Et ça, on le fait déjà?
Oui.
Alors, à quoi, par exemple?
Ben ça, on le fait déjà. Par exemple, il y a Léane, qui est une jeune qui nous avait appelé avec sa mère.
Oui.
Léane qui avait un problème de dyslexie.
Okay.
Et donc, nous, on s'est assis avec l'enseignante, avec Sylvie, la mère de Léane. On a regardé ce qu'elle avait à lire pendant l'année et on lui envoyait périodiquement, par courriel, les œuvres qu'elle lisait en classe papier, mais en version audio. Ce que ça faisait, ça, c'est que donc Léane, qui était dyslexique, avait à la fois le son et l'image devant elle, les mots. Donc, l'association entre le phonème et le graphème vient aider les jeunes en situation d'apprentissage à la fois à se concentrer, mais à poursuivre la lecture un peu plus longtemps.
Alors, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui est dont l'enfant aurait des troubles d'apprentissage, et peut nous contacter, Vues et Voix, et on va l'aider à mettre ces livres-là en audio, parce que maintenant, on en est sûr, le livre audio est un outil fantastique pour ces jeunes-là. C'est bien ça.
Bien, sur le site de l'Institut des troubles d'apprentissage, l'ITA, le livre audio est mentionné comme une aide à la lecture qui s'en vient de plus en plus étudiée, qui est de plus en plus efficace. Nous, on était présents au Salon de l'apprentissage l'année passée, Vues et Voix, pour en parler. Mais c'est assez nouveau et on sait que les écoles, des fois, puis technologie, ça coûte cher de se mettre à jour
bien sûr.
La technologie. Les enseignantes en ont déjà beaucoup sur le dos,
oui.
À la fois les spécialistes ou les profs plus généralistes. Donc, ben, des fois, c'est des ressources comme ça qui sont hyper utiles, mais qui peuvent tomber dans les craques du plancher.
Et Marie-Ève, on a aussi quand même des livres bon, qui, comme tous les autres livres, leur seront utiles. Mais moi, il y en a deux que j'ai retenus dans le catalogue de chez Vues et Voix. J'aimerais d'abord qu'on entende un extrait de Trop de stimuli pour Alexis. Dieu sait si c'est souvent ce que ces jeunes-là vivent. C'était lu par Émilie Lévesque et ça va vous donner une petite idée peut-être de ce que votre enfant pourrait écouter en audio pour l'aider à le satisfaire, à avancer, à connaître des joies et des bonheurs, notamment par la lecture.
Tu es prêt, Alexis? Il faut y aller. N'oublie pas, maman, c'est le pique-nique ce soir.
Il faut venir à l'école tout de suite après le travail.
Ne t'inquiète pas, mon cœur. Nous passerons chercher ta sœur et nous viendrons ensuite tous les trois te rejoindre pour la fête. Pendant la journée, Alexis participe à des activités spéciales. Jade, son enseignante, a fixé au mur de son local une immense banderole de papier. Chaque enfant doit tremper ses mains dans de la gouache pour ensuite imprimer ses empreintes sur la banderole. Zoa trouve l'expérience très drôle. Mais ce jeu contrarie énormément Alexis.
Oui, Alexis, il n'aimait pas trop ça, lui, les petites mains sur le mur. Tout d'un coup, ça fait comme trop d'informations, trop de visuels, trop de tout ça. C'est ça, hein, pour ces enfants. Présentez-nous un petit peu cette collection-là. Présente-nous, Marie-Ève Groux.
Oui, cette collection-là, elle est chez Dominique et compagnie. La collection s'appelle « Une histoire sûre ». C'est une collection à saveur psychosociale, si je peux dire un peu. Ça aborde des situations psychologiques plus difficiles pour les enfants, dans leurs mots, avec un vocabulaire, des images qui leur sont adaptées. Et ça, je trouvais que c'était très, très bien comme premier livre, oui, comme première incursion dans le livre audio. Parce que des fois, c'est des sujets qui sont, ben, comme je disais, difficiles à aborder avec les enfants, entre la réalité puis la grande psychologie.
Ouais,
faire les ponts entre les deux, parfois, c'est dur à arrimer. Et cette collection-là se penche sur le bégaiement, sur la dyspraxie, sur la dyslexie. Là, on entendait Alexis ici qui, lui, est hypersensible, donc l'hypersensibilité. Il y en a même un sur la bipolarité,
oui,
apprivoiser la bipolarité d'un parent. Et ça, je trouve ça très beau parce que, par exemple, celui qu'on va écouter juste après, compare le bégaiement avec des nœuds dans la gorge. Donc, il y a des images qui sont très sensibles puis qui sont adaptées aux réalités des tout-petits. Je trouve que ça permet de mieux apprivoiser, aborder ces thématiques-là.
Vous parlez bien des maladresses d'Agnès?
Les maladresses d'Agnès,
voilà,
exactement.
D'Emmanuel Jasmin. C'est lu par Aurélie Aubry. Un extrait.
Je m'appelle Agnès. J'ai 8 ans et je suis maladroite. J'ai de la difficulté à faire mes activités comme les autres. Le médecin a dit que j'avais une dyspraxie. Ça s'appelle aussi un TAC, un trouble de l'acquisition de la coordination. Mais c'est un peu long à dire. Avant que je reçoive ce diagnostic, on ne comprenait pas pourquoi j'avais tant de mal à faire certaines choses. Souvent, mes parents me disaient « Agnès, t'es donc bien maladroite. Comme t'es gaffeuse, Agnès. Agnès, t'as les deux pieds dans la même bottine ou quoi ?» Le matin, j'essayais de m'habiller seule, mais ce n'était pas facile. Souvent, ma sœur me disait « Agnès, t'as mis ton chandail à l'envers. Veux-tu lancer une nouvelle mode ?» Au déjeuner, j'essayais de manger sans me salir, mais j'y arrivais rarement.
Très bon boulot hein, de la part de Madame Aubry, Aurélie Aubry, voilà, qui a fait vraiment un excellent travail là-dessus. Les gens qui voudraient rencontrer Lulu et qui voudraient surtout rencontrer ces séries et ces livres audio qui pourraient leur venir en aide, ils peuvent le faire bientôt au Salon du Livre.
Oui, c'est ce que j'inviterai les gens à venir nous voir au Salon du Livre parce que c'est beaucoup d'informations, vues et voix. On a beaucoup de volets aussi, si je peux dire, au service qu'on offre. Entre Lulu puis le livre audio plus commercial, il y a vraiment deux mondes complètement.
Mm-hmm.
Mais on sera présent au Salon du Livre pour répondre à toutes les questions, démystifier, faire découvrir, expliquer tous les verbes à l'infinitif dont on aura besoin. On sera là.
Et elle sera là avec ses petites Lulu, évidemment, Marie-Ève Groux.
Oui,
merci beaucoup, Marie-Ève, et au plaisir de te réinviter dans cette émission.
Au plaisir, Clotilde.
Salut.
Je joue le rôle. Je joue le jeu. C'est pas les mêmes règles pour eux. Je me résigne à ne pas gagner parce que les choses ont bien changé. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai.
t'explique. Souffrir comme ça, c'est bien classique. Je le fais pour moi. Je peux penser comme un homme, boire comme un homme, droguer comme un homme, mais quand tout feu le camp. Une femme doit faire ce qu'une femme doit faire, c'est vrai.
Des nouveautés maintenant dans le domaine du livre audio. D'ailleurs, non, ce n'est pas du tout des nouveautés. Ce sont de nouvelles dont je voudrais vous parler maintenant. Je suis tombée dans l'excellente revue virtuelle L'Actualité, avec deux T, sur ce papier qui nous dit qu'aux États-Unis, le livre imprimé est le préféré, mais que le livre audio est de plus en plus apprécié. États-Unis, le livre imprimé préféré, le livre audio, très apprécié, d'après des données dévoilées par The NPD, The NPD Group, autrement dit, peu importe, là, c'est une entreprise américaine spécialisée dans les études de marché. C'est ce qui est important de savoir. La lecture resterait une activité plébiscitée par les Américains, qui sont apparemment 3 consommateurs sur 4 à avoir lu un livre ou écouté un livre dans les 6 derniers mois. Malgré cet état des lieux encourageant, la lecture perd encore quelques points par rapport à d'autres occupations culturelles que nous devinons. La lecture reste une activité culturelle centrale dans la vie des Américains, assure ce groupe dans un communiqué qui reprend quelques éléments d'une étude de marché consacrée aux livres. Les personnes interrogées par l'Institut admettent toutefois qu'elles lisent moins que l'année précédente. Si les méthodes de calcul ne sont pas exposées, elles liraient en moyenne 9% de moins qu'en 2018, une baisse qui concernerait avant tout les personnes âgées de 45 à 54 ans. C'est donc un léger décrochage qui est contrebalancé par une donnée beaucoup plus encourageante et qui nous concerne ici, de rechef. Le livre audio aurait conquis les 18-44 ans, une classe d'âge considérée comme cruciale par les spécialistes en commerce et en marketing. Autrement dit, les individus les plus susceptibles de dépenser de l'argent, et en particulier dans des produits culturels. Les individus qui déclarent lire et écouter des livres audio relèvent une hausse de leurs dépenses pour l'écoute de ces derniers, à hauteur de 10%. Et définitivement, la possibilité de faire plusieurs choses à la fois séduit le public et l'entraîne vers les titres lus. On se souvient, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de cette femme qui fait de la peinture en écoutant des livres audio et une autre qui fait de la cuisine en écoutant des livres audio. Les auditeurs de livres audio sont aussi ceux qui sont les plus susceptibles de s'engager dans toute forme d'activité liée au livre, ce qui en fait de précieux consommateurs en termes de pouvoir. Ça, c'est une analyste qui nous expose tout cela. Elle s'appelle Kristen McLean. Elle est spécialiste du livre pour BookScan. Ils pratiquent une lecture qui met tous les médias sur un pied d'égalité puisqu'ils écoutent des livres audio, mais ils lisent aussi des livres, des magazines et des bandes dessinées. Alors malgré cet engouement juvénile pour l'audio, le livre imprimé reste encore l'élément crucial de l'industrie du livre et des habitudes de lecture, mais vous allez voir, ça va changer. Plus de la moitié des interrogés par NPD a ainsi ouvert au moins un livre imprimé au cours des 6 derniers mois, contre un quart seulement qui s'est plongé dans un livre numérique. Des observations qui sont cohérentes avec les relevés de BookScan pour les ventes de livres. Le livre imprimé représente désormais 81% des ventes totales contre 72% en 2013. Alors c'est une croissance qui s'expliquerait, dit-on ici pour finir le papier, par une volonté de s'éloigner des écrans, en particulier pour le livre jeunesse avec un souci parental pour les yeux des bambins, mais il faut ajouter que les données NPD ne comprennent pas les ventes de livres numériques d'Amazon, y compris les e-books Kindle, ce qui pourrait quelque peu changer les résultats. Alors, une nouveauté pour finir cette émission des Livres pleins les oreilles. J'avais manqué de temps la semaine dernière pour vous parler de La femme du banquet, un livre audio lu par Rachel Arditi, traduit par Nathalie Cannington. Nous sommes un matin de novembre, un homme et une femme embarquent à bord d'un avion privé à destination de Genève. Ils sont pris dans un orage, l'appareil disparaît des radars, l'épave sera retrouvée quelques heures plus tard dans les Alpes. Alors vous n'imaginez pas tout ce qui va arriver à tous ces gens-là qui étaient dans l'avion et qui maintenant se retrouvent les pieds dans la neige et dans la boîte. C'est « La femme du banquier », un livre lu par Rachel Arditi, et nous en avons un extrait.
L'homme se tourna vers elle et leurs regards se croisèrent. Marina ralentit, passa au pas, puis s'arrêta à côté de lui. Elle s'étira, pieds plaqués contre ses fessiers, comme lui l'avait fait. Ils inspectèrent tous les deux les alentours pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Marina ?» Il avait un léger accent qu'elle ne réussit pas à situer. « Et vous êtes Marc ?» C'est le nom qui lui avait été indiqué par texto. Il hocha la tête. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il à voix basse. « Vous restez longtemps à Paris ?»« Encore 3 jours. Et vous ?» Un peu plus longtemps. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter au numéro qui se trouve en bas de cette carte. Il sortit une carte de visite de la poche de son coupe-vent. Après avoir de nouveau regardé derrière lui, il la lui tendit. Elle la prit, ainsi que la petite clé USB cachée dessous. Elle mit le tout au fond de la poche zippée de son jogging. Je suppose qu'il y a un mot de passe ? Le mot de passe externe est le nom de jeune fille de votre mère, suivi du chiffre 1. Russell 1. Sans majuscule. Comment connaissez-vous le nom de jeune fille de ma mère ? Si on vous arrête à l'aéroport, refusez de donner le mot de passe. Dites que la clé contient des données personnelles, des photos, par exemple. Mais si on vous y oblige, ce n'est pas grave. Les informations vraiment importantes sont cachées sous les photos, dans une section secrète du disque dur. Le mot de passe pour cette section contient 48 caractères. Pour votre sécurité, j'enverrai ce mot de passe à Duncan Sander, par messagerie cryptée. Comme ça, même si vous le vouliez, vous ne pourriez pas fournir aux douaniers américains ou à qui que ce soit d'autre l'accès à ces données. « Très bien, » dit Marina d'une voix qui se voulait calme alors qu'en fait, l'excitation lui tournait la tête. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle pouvait être arrêtée ou que le gouvernement puisse convoiter ces informations. « Quel genre de photo ?» Au cas où on me le demande. Des photos de Paris. Le genre que vous prendriez en vacances.
Segunda feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor na primavera. Na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Olhando a lua, andando pela rua, desfilando quase.
quase nua, numa lata beija-flor, no chão, na cama, de fraque, de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor. Não me negue seu amor, me entregue seu amor. Na praia, na esteira, com barulho de motor. Em fevereiro, debaixo do chuveiro, de chapéu, de cangaceiro, de jaleco, de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Nua numa lata, beija-flor, chão na cama, de fraque, de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo o meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor.
Jolie ponctuation, hein, signée Bia. Vous savez, je vous parlais de la femme du banquier juste avant, lue par Rachel Arditi. Je m'aperçois qu'en fait, je me suis trompée de livre et je pensais que c'était un gros avion qui crachait dans ce bouquin. Pas du tout, c'est un avion privé. Et du coup, eh bien, on assiste à la mort de Matthew, qui est un cadre de la Swiss United, une puissante banque offshore, voilà, je vais le dire. Alors, sa femme veut savoir ce qui s'est passé, mais il y a des gens qui n'ont pas du tout envie qu'elle sache ce qui s'est passé réellement et surtout qu'elle soit au courant de quelques exactions commises par le monsieur en question. Voilà mes amis, c'est la fin de l'émission des livres plein les oreilles. Je voudrais commencer par remercier Mathieu Tessier qui était en régie une fois encore aujourd'hui et avec qui il est tellement agréable de travailler. Merci aussi à mes invités Marjorie Théodore, Marc Britan, Clélie Barret, Dominique Riel, jeune auteur en devenir, et puis Marie-Ève Groux. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite une jolie et joyeuse semaine, surtout plein de lectures imprimées ou encore à vous mettre entre les oreilles. Salut, à la semaine prochaine.